Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est l'une des associations qui monte en France. Preuve s'il en est, le Premier ministre Édouard Philippe leur a consacré une semaine après sa prise de fonction une visite pour commencer d'honorer les promesses d'Emmanuel Macron autour du handicap. Cette association, c'est Simon de Sirène, une association proposant notamment des lieux de vie entre jeunes professionnels et personnes cérébro-lésées pour les accompagner dignement, certes, mais plus encore pour participer à une urgente révolution culturelle, celle de l'acceptation de la fragilité. Laurent Chérizet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le fondateur de Simon de Sirène. Vous faites l'amitié à Radio Présence de passer par nos locaux pour présenter cette association à nos auditeurs. Vous n'êtes jamais venu dans le Sud-Ouest pour l'instant ?
Je suis venu plusieurs fois pour donner des conférences. Une fois, il y avait une grande journée de l'Arche où il m'a demandé de venir partager. C'est un peu nos grands cousins, l'Arche. Et puis une autre fois à l'ICAM aussi. Voilà. Donc j'ai eu quelques occasions amicales.
Voilà, en tout cas, mon petit doigt m'a dit que vous veniez parce que les choses bougeaient du côté de Simon de Sirène. On en parlera au long de cette émission. Je me disais, peut-être certains vous connaissent et voudraient qu'on leur rafraîchisse la mémoire et les autres faire connaissance un petit peu avec vous, même si le propos est d'abord de parler de Simon de Sirène. Vous êtes donc un chef d'entreprise. Voilà, on vous voit aussi de temps en temps à Paray-le-Monial, pour ceux qui sont un petit peu familiers de ces réalités, donc lieu de rassemblement de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez aussi fait un tour du monde avec votre épouse, reporter d'espoir. Comment vous compléteriez cette très rapide présentation ?
Alors, bon, effectivement, on est membre avec mon épouse de la communauté de l'Emmanuel. C'était notre lieu source spirituel. On a 5 enfants qui sont grands maintenant et on avait vécu effectivement ce temps qui avait été exigeant et privilégié où on était parti dans 18 pays sur les 5 continents pour regarder le monde avec le regard d'espérance qu'on est invité à avoir en tant que chrétien. Hein. C'est-à-dire finalement, on voit les drames dans les médias, on voit la dignité humaine qui est bafouée un peu partout. Qu'est-ce que ça nous dit ? On sait bien que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a la solution. Hein. Et en même temps, moi, je pense que la solution, c'est de suivre le Christ, évidemment, et c'est de suivre le Christ sur ce chemin de l'espérance. Et le chemin de l'espérance, c'est le regard sur l'homme, de croire que tout homme est invité, quelles que soient ses fragilités, quelles que soient ses épreuves, quelles que soient ses difficultés, etc., à être co-créateur. Hein. C'est l'invitation de Dieu dans la Genèse. Et dans notre monde moderne, on peut être tenté de se dire, mais à quoi bon ? 7 milliards d'êtres humains, une petite planète Terre, un village commun. Voilà, donc en fait, on avait été voir...
Vous pouviez rappeler peut-être 2-3 temps forts, juste pour...
Voilà, alors c'est bon, on était parti pour France 5 faire une série de documentaires télévisés, hein, Passeurs d'espoir, et après ça, on en a fait des livres. Et en fait, on avait été voir comme ça, en Inde, un Indien confronté à la désertification de son village et qui avait remobilisé le village pour recréer des grands bassins à ciel ouvert qui rechargeaient les nappe phréatique, et son projet, en fait, qui était d'abord un projet de confiance dans le collectif, dans l'homme. Voilà, chacun co-créateur, c'est chacun qui prend soin des ressources du village. C'était très concret, vous voyez. Et en fait, son projet a tellement bien fonctionné qu'après ça, il y a d'autres villages qui sont venus le voir. Et quand on a fait notre reportage, il y avait plus de 700 000 personnes qui avaient évité l'exode rural. Et ce qui m'avait énormément frappé à l'époque et qui m'a permis d'initier Simon de Sirène, c'est de voir que ces entrepreneurs sociaux qu'on avait rencontrés en Inde, en Chine, en Sibérie, au Pérou, au Rwanda, ils parlaient du même homme. C'est le même être humain qui a ce même doute d'être capable et cette même capacité à être capable quand il se fait confiance les uns aux autres. Et du coup, notre ligne éditoriale et ce qui, moi, m'a donné l'audace de fonder Simon de Sirène, c'est de croire que lorsque l'on ose rentrer en amitié les uns avec les autres, lorsqu'on ose rentrer en relation en dépassant nos peurs de ne pas être capable, notre peur de l'autre, peur de l'altérité, eh bien, c'est alors qu'on découvre qu'on est chacun appelé à être co-acteur du monde.
Donc Passeur d'espoir, en effet. Donc c'est, il y a un livre donc qui a été édité aussi. J'ai vu qu'il a, s'était vendu à plus de 150 000 exemplaires. Et puis vous aviez aussi participé donc à la création du réseau Reporter d'espoir, réseau on va dire d'informations innovantes, d'informations de solutions. En rentrant de ce voyage, donc vous avez créé ou rejoint, je ne sais pas, créé Simon de Sirène. Comment vous présenteriez rapidement cette association? Et puis, deuxième question, pourquoi avez-vous sensibilisé à cette question des personnes cérébro-lésées?
Alors, effectivement, je pars avec mon épouse faire ce voyage Passeur d'espoir. À l'époque, j'avais créé des entreprises et j'avais fait le choix de, voilà, d'une étape dans ma vie où je voulais basculer dans l'entrepreneuriat social au service d'un projet enraciné dans ma foi chrétienne. Hein. Et donc, en rentrant, j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser parce que finalement, ce que j'avais aussi vu à travers ces passeurs d'espoir, ces grands portraits qu'on avait faits, c'est qu'en fait, on a souvent deux moteurs à l'action. Voyez, il y a un moteur, c'est tout ce qui est de l'ordre de nos talents, de nos rêves, de nos désirs. Hein. L'être humain est un être de désir et parfois notre société postmoderne consumériste tue notre désir. Vous voyez. Donc c'est très important voilà, de se laisser appeler dans son désir. Je pense que le lieu de la prière, le lieu de la rencontre de l'autre est un lieu très privilégié pour ça. Hein. On fait jaillir cette audace comme ça. Et puis il y a un deuxième lieu. Hein, et ça, on a vu ça aussi chez beaucoup de passeurs d'espoir, c'est ce que la vie nous amène parfois comme épreuve. Hein. Ça peut paraître presque à l'opposé, hein, d'un côté le désir, le rêve, et de l'autre côté les épreuves. Et les épreuves, les siennes ou celles de ses proches, eh bien, c'est lorsqu'on est confronté à un défi, et ce défi, c'est lorsque la dignité humaine est bafouée. Voyez-vous, le pape Jean-Paul II avait écrit une magnifique encyclique qui s'appelait le Christ Rédempteur, qui nous invitait comme ça à prendre en compte que lorsque la dignité humaine est bafouée, en tant que chrétien, on doit se sentir concerné, on doit se sentir appelé. Voilà. Et cette dignité humaine bafouée, eh bien souvent, on la choisit pas. On la choisit pas. Moi, dans ma famille, ça a été l'histoire douloureuse de ma sœur qui a eu un très grave accident de voiture. Elle avait 17 ans, elle était passagère. On est maintenant pas mal d'années en arrière, en 1983.
Vous parlez souvent dans vos conférences du coup de fil qui change une vie.
C'est ce qu'on ne choisit pas, en fait, bah, j'ai envie de dire une seconde avant, on considère que ce n'est pas pour nous. Le handicap, en l'occurrence, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, ceux qui n'ont pas de peau, etc. Et puis on reçoit ce coup de fil, on apprend que quelqu'un de tout proche, qu'on aime, qui va bien, voilà, a vécu un grave accident. Traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, après ça des naissances compliquées, des infirmités motrices cérébrales, tout ça c'est le peuple de Simon de Sirène aujourd'hui. Et là, eh bien, toutes nos représentations s'écroulent. Hein,
vous aviez quel âge du coup?
Moi j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et là tout d'un coup ben, la fragilité, la souffrance, l'épreuve s'invitent violemment dans notre vie.
Puis c'était votre petite sœur, c'est ça? Elle avait
17 ans. Elle avait 2 ans de moins que moi. Et puis là, ben, on va mettre des années à cheminer avec ça. Et je crois que tout être humain, à un moment ou à un autre, tôt ou tard dans sa vie, expérimente cette épreuve-là, hein, qui peut s'appeler le décès, qui peut s'appeler la maladie, qui peut s'appeler la séparation, le chômage longue durée. Enfin, qui est à l'abri de ça? Je pense que ça fait partie de notre pèlerinage terrestre, finalement. Et à ce moment-là, la question, c'est plus qu'est-ce que je choisis, parce que ça, on ne le choisit pas. Hein, mais la question, c'est plus la question du consentement. Comment est-ce que, avec ça, hein, avec cette croix, cette immense épreuve de vie, comment je vais cheminer? Et dans notre société moderne, on est tenté de vouloir résoudre ces problèmes-là. Or, ces grandes épreuves, que ça soit un deuil ou le handicap, ça se résout pas. C'est là. Et en fait, c'est des années. Aujourd'hui, Simon de Sirène est présent dans 12 villes en France, donc voilà, je vais pas mal d'une ville à l'autre, participer à des groupes de parole, à des groupes de projets, à l'animation de nos maisons, de nos communautés de vie. Et je me nourris toujours de ces échanges où on se rend compte que c'est là, le handicap est là, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est peut-être une réponse qui est prophétique. C'est peut-être la réponse des béatitudes. C'est peut-être quand le plus fragile vient me dire... Avec ses fragilités, avec son expérience d'une vie compliquée et douloureuse, voilà un chemin de vie, voilà où jaillit la vie. Alors, peut-être que là, on touche à l'espérance. Peut-être qu'on là, on touche à ce que Charles Péguy appelait cette flamme vacillante de l'espérance. Voyez-vous.
Est-ce que vous pouvez nous parler des 40 000 personnes cérébro-lésées ? Voilà, c'est une réalité qui n'est peut-être pas très connue en France. Vous le citez souvent, ce chiffre aussi, dans vos conférences. Ces 40 000 personnes, qui sont-elles ? Et puis, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Racontez-nous peut-être...
Alors, c'est un paradoxe, j'ai envie de dire. Parce que ces 40 000 personnes, jusque dans les années 80, n'existaient pas. Elles n'existaient pas parce que c'est des personnes qui vivent des graves accidents, hein, et qui, avant l'implantation des SAMU en France, décédaient. On n'avait pas les moyens de les sauver. Et puis la société, par ses développements de compétences médicales, techniques, etc., et aussi par un choix politique, décide d'implanter un maillage territorial avec des équipes super compétentes, super formées, de médecins, d'urgentistes, des camions, des hélicoptères. Et en moyenne, dans les 10 minutes, quand on a un grave accident, un AVC, trauma crânien ou autre, eh bien, il y a une équipe qui va venir nous maintenir en vie. Et en fait, on sait aujourd'hui que dans la majorité des cas, il y a un avant et un après très fort. On sait que ces 40 000 personnes, c'est des personnes qui vont vivre des semaines, voire des mois dans le coma, et ils vont se réveiller chaque année, hein, 40 000 personnes chaque année en France, hein, ils vont se réveiller avec des lésions dans le cerveau, lésions acquises irréversibles.
Vous avez un médecin sur votre site qui parle de page blanche carrément.
Voilà, alors la page blanche, c'est-à-dire que on se réveille, et puis on se rend compte qu'il y a des connexions dans le cerveau qui ont été rompues, hein, les lésions cérébrales. Et ça a des conséquences physiques. Hein, dans nos maisons Simone Sirène, on a des personnes qui ont besoin d'un plateau douche pour se laver, qui ont besoin d'aide physique 24 heures sur 24. On a d'autres qui sont claudiquants, qui sont ou en fauteuil manuel. Enfin voilà, c'est très disparate selon les zones du cerveau qui ont été atteintes. Il y a aussi du handicap cognitif, hein. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait il y a 2 heures. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à... etc. Et puis, il y a du handicap psychique. La psyché, c'est l'âme. Qui suis-je ? J'étais quelqu'un qui, jusqu'à mon accident, ai appris à être performant, à me construire par ma formation, par mon métier, par ma culture, par ma réalité sociale, économique, etc. Et là, je me réveille après des mois de coma et je ne suis plus rien de tout ça. Je ne suis plus capable de gagner ma vie. Je ne suis plus capable de me débrouiller tout seul. Qui suis-je ?
Et accident qui touche, vous avez l'habitude de citer des gens, ça touche évidemment n'importe qui. Est-ce que vous pouvez prendre l'un ou l'autre exemple qui vous revient en tête ?
On a en tête, hein, l'actualité avec tel sportif qui a eu un accident de ski et qui est aujourd'hui encore en état quasi végétatif. On a en tête les affaires dramatiques, hein, qui alimentent l'actualité, où on se dit jusqu'où et jusqu'à quand on garde en vie. Et en fait, l'expérience qu'on vit à Simone Sirène, c'est que ces personnes, quand elles se réveillent, et puis les entourages, les familles, nous-mêmes, on dit mais... aujourd'hui, quel est le sens ? Pourquoi est-ce qu'on nous garde en vie, voyez ? Et en fait, ça vient questionner de manière très radicale une question que la société, et peut-être nous-mêmes, on a du mal à se poser, hein, et qui vient profondément au cœur du mystère chrétien, qui est la question du « quel est le sens de ma vie ?» Et dans nos représentations, si on répond « ma vie, elle a de la valeur parce que je suis efficace, je suis performant, je suis rentable, je sais, je peux, je veux, je parais », mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on répond à tous les fragiles, voyez-vous ? Et puis, sur une espérance de vie de 80 ans, on voit bien que nos enfants sont fragiles les 20-25 premières années, on voit bien qu'on se fragilise les 20 dernières années. Donc, il y a plus de la moitié de notre vie où on est fragile. Et puis après ça, dans la vie active, entre 25 et 50-60 ans, eh ben, il y a une rupture affective sur deux, il y a 10 millions de personnes qui ont un handicap, il y a 8 millions de mal logés, il y a du chômage longue durée. Donc finalement, la question que ça nous pose, c'est est-ce qu'il n'est pas le temps qu'on se réconcilie avec notre fragilité qui est partie intégrante de notre condition humaine ?
Donc Simone Sirène née en 2006, vous dites qu'aujourd'hui c'est 12 maisons, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être du développement de cette association ? Je disais en introduction que vous avez eu la visite du Premier ministre juste après sa prise de fonction, voilà, c'est presque la start-up là.
Oui, c'est du temps long, hein. Moi ça fait maintenant 12 ans que je me suis engagé à plein temps, hein. 3 premières années où j'avais un peu l'impression d'être un Don Quichotte. Hein. J'ai travaillé d'arrache-pied, puis je trouvais pas le chemin parce que ce monde de la fragilité, il est très organisé en France, hein, et, dans une logique qui va pas mal du haut vers le bas, hein, avec des pouvoirs publics. Et qui sont, il faut mieux être handicapé en France que dans beaucoup d'autres pays. Il y a une vraie solidarité nationale, financière, etc. Mais il y a aussi le risque d'une espèce de tyrannie des normes, parce que la fragilité, on veut tellement la protéger que parfois on l'étouffe, voyez-vous. Et quel espace de liberté on crée. Alors il y a un mouvement de fond, et que nous on a rencontré à Simone Sirène, qui est lorsqu'on est capable de se dire « tu n'es pas que ton handicap ». De même qu'on va dire, tu n'es pas que ton deuil, tu n'es pas que ton divorce, tu n'es pas que ton chômage. Tu es plus grand que cela. Hein. Tu, en tant que chrétien, tu es enfant de Dieu. Mais voilà, simplement, en tant qu'homme et de femme, tu es plus grand. Ta dignité humaine, elle est au-delà de ton épreuve, de ta souffrance. Et en fait, ce dialogue-là, c'est celui souvent qu'il y a entre la personne handicapée, ses tout proches. Et c'est ce qui va permettre à cette personne de construire une deuxième étape de vie. Et cette deuxième étape de vie, elle est très bouleversante, et c'est comme ça que naissent les communautés Simone Sirène, parce que la personne fragile, elle nous dit quelque chose d'incroyable, elle nous dit « j'ai besoin de toi ». Et dans ces « j'ai besoin de toi », la personne fragile, elle vient me réconcilier avec moi-même. Pourquoi ? Parce que la personne fragile, elle me dit « arrête d'avoir peur ». Arrête d'avoir peur de toi-même, de ne pas être capable. Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas si beau que ça, qu'on n'est pas très performant. On a du mal à nommer ses talents. Et elle me dit, j'ai besoin de toi, je te fais confiance. Tu peux m'aider. Et puis, arrête d'avoir peur de nos différences. Je ne vais pas courir plus vite que toi. Et ce faisant, la personne fragile, la personne handicapée à Simone Sirène, la personne âgée, en fait, elle est au cœur de notre société. C'est pour ça que Jean-Paul II disait, la société est forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles. On en a fait un peu notre leitmotiv à Simone Sirène. Parce qu'elle crée, elle vient comme réconcilier la société. Et toutes les personnes valides qui viennent s'engager à Simone Sirène, aujourd'hui c'est un mouvement de 2-3 000 personnes, Simone Sirène, c'est des gens qui nous disent, hier encore j'étais avec le groupe de Toulouse, c'était bouleversant. Je les entendais dire, mais ces soirées, ces journées, ces barbecues, ces rencontres, ces temps qu'on vit ensemble, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, je peux tomber les masques, je peux être moi-même, vous voyez. Donc c'est... le cœur du projet, c'est ça, en fait.
Donc 2-3 000 personnes, à peu près 200 personnes, c'est ça, cérébralisées, accueillies.
Alors, on a aujourd'hui, en fait, une vingtaine de maisons. Alors, une maison Simone Sirène, c'est quoi ? C'est, en fait, un peu comme une grande maison familiale.
Si ça vous embête pas, on va juste faire une pause, parce que je vois le temps qui passe. Voilà, en tout cas, c'est 3 000 personnes à peu près. Combien de personnes accueillies, en quelques mots, c'est...
Alors, aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes qui sont accueillies dans les maisons et 400-500 personnes qui sont dans nos groupes de compagnons.
Voilà, on va faire une pause donc, pour découvrir davantage cette association, peut-être essayer de se promener dans les lieux qui existent et peut-être un jour à Toulouse, vous allez nous raconter ça, qui sont peut-être davantage ou comment on accompagne ces personnes cérébro-lésées, les volontaires qui participent, il y a différents types d'engagement et autres merveilles. Thank you.
présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, Simon de Cyrène, vivre avec les intouchables, avec Laurent Chérizet, fondateur donc de Simon de Cyrène, cette association que l'on découvre, qui nous fait l'amitié donc de passer par les locaux de Radio Présence à l'occasion d'un passage à Toulouse. On avait promis une promenade virtuelle à nos auditeurs. Je sais par exemple que votre première maison a été fondée à Vanves. Peut-être pouvez-vous commencer par nous décrire, voilà, si on était un drone, vous savez que les drones sont très à la mode, à quoi ressemblent ces maisons qui ont été conçues de manière, on va dire, très, très précise, tout voilà. A été bien réfléchi.
Alors, avant d'avoir été visibles par drone, elles ont d'abord été un rêve collectif, hein, donc de ces hommes et de ces femmes qui ont basculé dans le handicap, trauma crânien, AVC, qui pour certains, ça leur est arrivé, ils sont parents avec enfants, d'autres étudiants, d'autres quasiment à l'âge de la retraite. Donc ça brasse un public très varié. C'est nous tous qui sommes en risque par rapport à ces risques de la vie moderne. Et en fait, quand ils ont commencé à se rencontrer, c'était autour de l'idée de dire on arrête de regarder le handicap. Et donc de ça est né quelque chose de très bouleversant. Et aujourd'hui, toute communauté Simon de Cyrène, on l'invite à démarrer par ça. C'est pas démarrer par une maison, c'est pas démarrer par une association, par de la recherche d'argent, mais démarrer par la chose la plus simple et peut-être la plus exigeante qui soit, qui est de prendre le temps de se rencontrer autour d'un repas, d'une table d'hôte qu'on va préparer ensemble.
C'est ce que vous appelez les compagnons,
voilà,
c'est ça,
les compagnons qui existent à Toulouse. Qui existent à Toulouse. Et ça, c'est dépasser ma peur de l'autre qui est différent, dont le corps est blessé, dépasser ma peur de ne pas être capable. Et l'expérience qui se vit aujourd'hui quotidiennement dans 12 villes, c'est des lieux qui font du bien. Parce que c'est des lieux où le masque tombe et où on s'accueille tel que l'on est. Hier soir,
donc qui vient
le groupe de compagnons de Simon de Cyrène de Toulouse, on entendait dire « mais c'est ma deuxième famille ». C'est des lieux où, avec des gens profondément, voilà, des corps complètement blessés, avec un sourire extraordinaire, me disant « c'est des lieux où je retrouve des amis, on regarde pas qui est handicapé par handicapé ». Et puis des personnes valides disant « ben oui, j'ai rarement été accueilli comme je suis accueilli là, c'est un lieu qui me fait un bien incroyable ». Donc en fait, moi
donc,
je suis parti de ces groupes-là.
Personnes cérébralisées, voilà. Famille, entourage, amis.
Des accidents vasculaires cérébraux, des infirmières cérébraux, des amis, des paroissiens, des familles. Claire disait, moi, ce qui me touche avec son handicap, c'était assez bouleversant, cette belle jeune femme handicapée qui disait, moi, ce qui me touche, c'est qu'il y a plein d'enfants qui viennent et j'aime m'occuper des enfants. Et c'est peut-être le seul endroit où les enfants n'ont pas peur de moi. Ouais, donc ça crée cette espèce d'ambiance de confiance comme ça. Et donc moi, je suis parti de ce premier groupe comme ça, hein, qui avait été créé autour de ma sœur Cécile. Et j'avais appris ça de mes reportages Passeurs d'espoir que j'évoquais tout à l'heure. J'ai passé plusieurs mois à rentrer en amitié ensemble et à écouter et à rêver ensemble. Et donc j'ai entendu Étienne, Pierre, Jacqueline dire « mais on ne peut plus avoir de famille, on s'entend bien, on rigole bien ensemble, on pourrait se créer une famille d'amis ». Alors moi, je leur disais « Ah, c'est super, on va faire ça à la campagne ». Alors, Étienne, il m'a dit « Laurent, c'est ton rêve de valide, tu vas nous rajouter un handicap. Ton idée d'un jardin, c'est bien, mais dans la ville. » Alors aujourd'hui, les 20 maisons qu'on a, elles ont toutes un jardin ou une grande terrasse dans le centre-ville. Hein. Et puis après ça, je me rappelle aussi de manière très bouleversante de cette parole de Jacqueline qui disait « Moi, depuis que je suis handicapé, ma plus grande souffrance, c'est pas mon handicap. » Alors j'étais un peu surpris, elle me dit « Mais... ma plus grande souffrance, c'est la solitude. » Et à Simon de Cyrène, ben, je retrouve cette famille d'amis qui me fait du bien et ça fait un véritable avant et un véritable après.
À quoi ça ressemble une famille d'amis?
Alors, la famille d'amis,
en fait, logement.
En fait, elle est...
À quoi ressemblent les bâtiments, le
drone que vous évoquiez, c'est en fait... Alors, on dit maison, mais parfois, c'est un grand appartement. Hein. En général, en pied d'immeuble, comme ça, on a le jardin de l'immeuble, on fait pas mal de fêtes de famille, de fêtes de voisins, etc. Hein. Et on a, quand on rentre, un grand salon salle à manger cuisine, un peu comme un grand gîte ou une maison de vacances. Et là, c'est le lieu où il va toujours y avoir... quelqu'un avec qui prendre un café, avec qui préparer le repas, avec qui discuter, voilà. Alors, c'est les habitants, ça peut être des amis, des voisins, etc. Et puis, autour de ça, il y a 6 studios qui font à peu près 30 mètres carrés, et qui chacun ont leur petite kitchenette et leur salle de bain pour être chez soi et en même temps pouvoir bénéficier de ce chez nous. Hein, c'est chez moi et chez nous. Et dans ce studio, je suis vraiment chez moi. C'est des lieux avec de la domotique, avec des appels malades si besoin, etc. Et on organise, hein, avec de l'aide, l'aide humaine, pour que la personne puisse vivre chez elle, comme ça, et en même temps bah, avoir cette vie citoyenne, cette vie fraternelle auquel elle aspire.
Est-ce qu'il y a une participation minimum à cette vie, commune?
Si je complète, hein, on a toujours notre vue du drone, eh bien, en plus de ces 6 studios et de ces 70 mètres carrés, on a 4 studios pour des valides. 2, c'est des salariés qui sont permanents lieux de vie, qui s'engagent pendant un an renouvelable à vivre sur place. C'est des engagements extrêmement forts. Je suis très touché de voir le nombre de gens qui nous contactent, qui viennent me voir, qui disent « moi j'ai envie d'un engagement, j'ai envie d'une vie professionnelle qui ait plus de sens ». Voilà. Donc ça, on embauche beaucoup ces gens-là. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui s'y intéressent à aller voir notre site simonesirene.org. Et là, on voit qu'on recrute régulièrement des gens sur des différents métiers, beaucoup pour vivre dans ces maisons, pour être salarié et vivre dans ces maisons. Et c'est des gens qui vivent des expériences de vie très fortes. Voilà. Et puis après ça, on a des jeunes qui viennent passer un an comme volontaires service civique, qui ont aussi leur studio. Et là, c'est des gens qui viennent avec leur jeunesse, avec leur idéal de vie, avec leur audace, avec leur regard un peu neuf sur notre projet, et qui mettent de la vie. Et en même temps, c'est des gens qui sortent de là, souvent, et disent « mais je veux repasser une deuxième année là, parce que ça a été tellement incroyable pour moi comme expérience de voir que ma vie avait de la valeur, que ma vie avait du sens, qu'à 20 ans, je peux contribuer, que je peux être acteur. » Et c'est, en fait, vraiment un lieu où je dis aux personnes handicapées « mais vous construisez des hommes debout. Vous nous invitez à être au cœur de notre humanité. » Voilà. Et donc, une maison Simone Sirene, ça vit comme ça, au gré du temps pour se lever, qui est long, hein, avec un handicap.
On reste,
des accompagnements,
on reste combien de temps? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée?
Non, les gens sont chez eux. Hein,
sont chez eux.
Donc, les personnes handicapées, elles sont là. Bah, la première maison ouverte, il y a 9 ans. Il y a des gens qui sont là depuis 9 ans. Quoi, hein. Et puis, les personnes valides, elles restent sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, ça dépend de leur projet de vie. Et puis, dans une même ville, on va construire plusieurs maisons comme ça, qui sont plus ou moins proches les unes des autres, et ça forme une communauté Simone Sirene, une communauté d'hommes et de femmes qui veulent vivre ce vivre ensemble, qui sont reliés à la paroisse, qui sont reliés à la vie associative, qui sont reliés à la vie de quartier, au voisinage. Et en général, les associations, les paroisses, les maires nous disent « mais depuis que vous êtes implantés, ça transforme notre quartier, notre paroisse, etc. » Et en fait, pour moi, c'est tout simplement les actes des apôtres. C'est-à-dire que cette capacité à vivre ensemble, cette vie fraternelle, eh bien, c'est toute la promesse de l'Évangile, en fait. Hein. C'est cette capacité, au-delà du handicap, au-delà de nos pauvretés, au-delà de nos incapacités, à faire humanité ensemble, à vivre cette espèce de civilisation de l'amour dont parlait Jean-Paul II, quoi.
Pour les personnes, donc vous dites handicapées, hein, qui vivent dans ces maisons, j'ai cru comprendre que l'accompagnement, enfin la proposition, c'est évidemment c'est ce que vous venez de décrire, hein, mais est-ce que vous allez jusqu'à accompagner parfois d'un point de vue professionnel, s'il y a la possibilité, ou est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans ces maisons? Qu'est-ce que vous diriez sur ces deux autres volets?
Alors en fait, on a été pas mal nourri par l'expérience de l'Arche, hein, qui nous a
donc l'Arche fondée par Jean Vanier,
bien connu, qui a une expérience de vie communautaire. Alors c'est au début, je pensais qu'on serait au sein de l'Arche, et en fait, on est des cousins de l'Arche parce que c'est pas le même handicap. Hein, donc, on fait régulièrement des invitations, des fêtes ensemble, mais c'est pas la même réalité du handicap. Et donc, le discernement et l'expérience a montré que qu'on pouvait être cousins, mais c'était difficile avec ces handicaps très différents de vivre sous un même toit. Hein. C'est pour ça que Simone Sirene n'est pas l'Arche. Mais en fait, on s'est construit avec l'idée que quand on a un corps blessé comme ça par le handicap, notre premier besoin, c'est un besoin très professionnel. C'est un besoin de sécurité, d'accompagnement médico-social. Donc en fait, nos équipes salariés sont formés, on forme énormément et on recrute des gens aussi qui soit vont se former chez nous, soit sont déjà formés à ces formations médico-sociales, parce que aider une personne en situation de handicap dans son lever, dans son accompagnement, etc., ça s'apprend. Ça demande pas mal d'expertise. Hein. Voilà. Donc ça, il y a une vraie formation pour que cette compétence professionnelle, quand on ouvre des maisons, demain à Toulouse, là pour l'instant on est en recherche de foncier, etc. Mais quand les maisons ouvriront, peut-être dans 2, 3, 4 ans, il y aura 15, 20 salariés, vous voyez, pour Simone Sirène à Toulouse. Voilà. Et puis après ça, il y a une deuxième dimension.
Salarié temps plein ou...
Ah oui, oui, puis c'est oui. Du temps plein, je peux vous dire. Hein. C'est, voilà, c'est, ben, les gens qui vivent là, c'est 24 heures sur 24, donc il y a du temps de surveillance, du temps d'accompagnement, il y a du temps pour préparer les repas, du temps pour faire la fête, du temps pour rire, pour prier, pour pleurer, pour s'engueuler, pour se réconcilier. Enfin, c'est la vie, quoi. Hein. C'est vraiment une vie familiale, fraternelle, voilà. Et puis après ça, la deuxième dimension qui est majeure, hein, qui est très témoignante, c'est cette vie communautaire. C'est-à-dire nos différences nous invitent à nous enrichir les uns des autres et à déposer, nous, encore une fois, nos peurs de ne pas être capables. Et ça, c'est du vivre ensemble au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a chacun nos studios, mais on vit sous le même toit, dans la même maison et dans la même communauté. Et on rend témoignage que, comme disait Mère Teresa, c'est très bouleversant, hein, quelque part, c'est une affirmation qui résume tout ça. Elle disait, le soir de notre vie, le jour du face-à-face, la seule question qui nous sera posée, c'est la seule question qu'il faut qu'on se pose pour que notre vie soit belle, c'est « As-tu aimé ?» Et en fait, ces maisons, c'est des écoles de l'amour. Hein, exigeantes, parce que l'amour, c'est du quotidien. Ce n'est pas une grande déclaration d'amour une fois de temps en temps. C'est du quotidien, y compris les jours de fatigue, de ras-le-bol, etc. Mais ça nous fait grandir, cette capacité à s'enraciner dans l'amour.
Est-ce qu'il y a une proposition spirituelle aussi ?
Et alors, c'est la troisième dimension. C'est que lorsque le corps est soigné, lorsque le corps est bien accompagné dans ses besoins d'un corps blessé... Hein, et le corps blessé, le corps brisé, c'est le cœur du mystère quand même, Pascal. Hein. Sur l'autel le dimanche, on présente le corps brisé du Christ. Hein. Ça nous rejoint dans nos brisures, dans nos propres blessures. Le cœur de la proposition chrétienne, elle part de cette brisure, elle part de cette blessure-là. Voyez, ça, c'est très parlant, hein, Simone Sirène. Et ce corps blessé dont on prend soin, dont on apprend à donner sens dans ce vivre ensemble, eh bien, en fait, ça ouvre à une dimension qui est lumineuse pour notre société, qui ne sait plus la nommer, qui est la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, en fait, c'est la dimension du « je crois ». Et peut-être qu'il y a un contresens, c'est Maurice Zindel qui parlait beaucoup de ça, en disant dans notre société postmoderne, où on est tellement différents les uns des autres, etc., comment croire en Dieu quand on ne croit plus en l'homme ? Vous voyez ? Comment croire au Créateur si on ne croit plus à la créature ? Et en fait, dans nos maisons, on apprend d'abord à croire à la créature, à croire à la création, même la plus fragile, même la plus blessée, parce que c'est, quelque part, c'est elle qui me fait croire. C'est elle qui me restaure en me disant « j'ai besoin de toi, je te fais confiance », comme je l'évoquais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça ouvre une joie incroyable de savoir que l'autre me fait confiance, que l'autre est capable de m'aimer tel que je suis. Pas parce que je suis un super-homme, non, je suis un pauvre gars au quotidien, mais je suis beau parce que, dans notre espérance chrétienne, je suis à l'image de Dieu, c'est-à-dire je suis capable d'aimer et d'être aimé. Vous voyez, c'est tout ça qui se joue au quotidien. Et là, eh bien, en fait, on croit en l'homme. Et du coup, je crois en l'homme, profondément, on se verticalise. On n'est pas juste un corps à accompagner. Il y a une relation où je découvre que ce qui a de la valeur dans ma vie, ce qui a du goût chaque soir de ma vie et le jour du face-à-face, c'est de répondre « oui, je me suis laissé aimer et du coup j'étais capable d'aimer ». Et ça, c'est la spiritualité. C'est ça le spirituel. Hein. Un jour, on avait un groupe de travail avec personnes handicapées valides, on a dit, mais c'est quoi le spirituel ? Et une personne handicapée a dit, mais est-ce que c'est pas de chercher ensemble le sens de notre vie ? Voilà. À Simone Sirène, on l'ancre dans une proposition chrétienne. Hein. On croit que c'est profondément au cœur du mystère chrétien. Vendredi saint, douloureux, au pied de la croix, mais qui ouvre à la résurrection. On peut pas être que dans le vendredi saint. On n'est pas que mystère douloureux. On n'est pas non plus que dans la résurrection. On n'est pas que dans le mystère glorieux. Et en fait, on est dans cette tension, notre chemin d'homme, c'est d'être dans cette tension créatrice. Ça, on le vit très fort à Simone Sirène. Voilà. Et on le vit avec des personnes qui se retrouvent pour prier, qui se retrouvent pour aller à la messe. Et on le vit aussi avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui pourtant ont goût à venir vivre cette vie partagée sans se dire que parce qu'ils ne viennent pas à la messe, ils ne sont pas Simone Sirène. Vous voyez ?
Autant de choses qu'on aurait presque pu entendre dans la bouche de Jean Vanier. Ça fait penser évidemment à l'aventure de l'Arche. On va faire une deuxième pause et puis on retrouvera après peut-être pour développer quelques-unes des grandes leçons ou en tout cas intuitions que vous portez, que vous avez déjà évoquées et que nous disent ces personnes ou ces lieux. Peut-être pour ceux qui nous quittent maintenant, est-ce que vous pouvez donner le prochain rendez-vous des Compagnons de Sirène de Toulouse qui se sont montés?
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il y a un très beau groupe hein, qui a été fondé par Armel Pagès et qui aujourd'hui se rencontre une fois par mois. Ils sont une quarantaine. Il y a C'est un condensé, j'en suis nourri parce qu'hier soir ils m'ont invité à une grande soirée festive et chacun a porté la parole, partagé comme ça pourquoi je suis là. Et on a entendu ces paroles bouleversantes de « c'est ma deuxième famille, ici je me sens vivant, incroyable, qu'est-ce que c'est être vivant ?» Vous voyez. Et en fait, la prochaine rencontre, et Armel vous y invite tous si jamais vous vous sentez appelé à cela, c'est le 1er juillet. Ça démarre, pour ceux qui le souhaitent, par la messe de 11h à Pibrac, hein, la patrie de Sainte-Germaine. Hein.
C'est pas, ouais, c'est vous pas êtes rien. Bon connaisseur de Toulouse, c'est pas la première fois que vous venez.
J'y suis passé ces dernières heures, donc je peux vous dire que j'étais extrêmement touché par le lieu, par la prière à Sainte-Germaine. Donc 11h, la messe au prieuré de Pibrac, et puis 12h, un grand barbecue, un grand temps festif partagé. Et voilà, n'hésitez pas à y aller, à aller sur le site simondesirene.org. Et puis Armel m'a autorisé à donner son portable.
À la fin de l'émission, promis. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve tout de suite après. Thank you.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin donc sur Simon de Cyrène, si par hasard vous nous prenez en cours de route. Je vous rappelle que nous sommes avec Laurent de Chériset qui est le fondateur de cette association. Comment la résumer en quelques mots difficiles ? Association qui travaille à créer d'abord des lieux de vie entre personnes cérébro-lésées, on va dire, entre personnes valides, pour non seulement pour les accompagner, mais pour se laisser opérer peut-être le miracle ou le changement de perspective que permettent ces personnes. J'aimerais justement que dans cette dernière partie d'émission, on s'attarde un petit peu plus, même si vous l'avez fait au long de l'émission, sur la dimension prophétique, c'est un mot que vous avez déjà utilisé, de ces personnes et de ces lieux de vie. Vous avez dit à plusieurs fois que ces personnes posent une question prophétique à la société. Est-ce que vous pouvez reformuler ou redire à votre avis ce qu'elles disent à notre monde et pourquoi elles disent à notre monde quelque chose de prophétique ?
Mais en fait, cette expérience qu'on ne choisit pas, hein, moi j'aime bien le personnage de Simon de Cyrène, c'est pas moi qui choisis le nom, c'est une personne handicapée. Je veux pas être que l'objet de la prise en charge, je veux pouvoir aussi moi aider. Et ce Simon de Cyrène, souvent on l'idéalise un peu dans les méditations de chemin de croix en disant « Ah, il est généreux, il a aidé le Christ à porter sa croix ». Ben, pas du tout. Il n'a pas choisi, il s'est fait réquisitionner. Quoi, hein, et pourquoi est-ce qu'il était là à ce moment-là ? En tout cas, il s'est fait réquisitionner. Et ce qui fait qu'on parle de lui dans l'Évangile, c'est pas ce non-choix. Moi, je crois que ce qui fait qu'on parle de lui dans l'Évangile, c'est que il se fait réquisitionner, donc là, rien de glorieux, c'est pas son choix, c'est pas sa générosité, mais je suis assez convaincu que si on imagine la scène, on peut assez facilement voir cet homme qui se fait réquisitionner et qui, à un moment, va regarder le supplicié. Et quand on regarde le supplicié, quand on regarde la personne handicapée, quand on regarde le SDF, on voit le Christ. Et il fait l'expérience qu'il rencontre le Christ, voyez-vous ? Et c'est ça qui est prophétique, en fait. C'est que la personne fragile, différente, etc., eh bien, elle nous dit, mais regarde-moi, regarde-moi. Hein, souvent, les personnes handicapées, elles nous disent dans les groupes de parole, mais moi, ce qui est insupportable pour moi, c'est que quand je suis en train de me balader dans la rue avec un accompagnant, soit les gens changent de trottoir, soit ils parlent à mon accompagnement en disant, qu'est-ce qu'il veut ? Regarde-moi. Regarde-moi comme Simon a dû regarder le Christ, quoi. C'est ça qui est prophétique. Et concrètement, pour tout homme et femme, au-delà de oui, ceux qui professent l'expérience chrétienne...
Exactement, vous en faites une lecture spirituelle.
C'est le cœur chrétien, oui. Mais pour tout homme et femme, on est dans une société qui crée une véritable tyrannie. Cette société tyrannique, parce qu'elle nous dit depuis qu'on est à la maternelle qu'il faut être premier de la classe, qu'il faut être performant, qu'il faut... Voilà, avec les réseaux sociaux qu'il faut toujours donner l'impression qu'on est beau, qu'on fait la fête, qu'on est toujours zéro défaut. Vous voyez, il y a une tyrannie qui est incroyablement violente au tréfonds de moi-même. Lorsque je prends un temps de silence, lorsque je me lève, lorsque je me couche, je sais bien que ma vie, c'est pas ça. Je sais bien que c'est pas ça, ma vie. Et qui est-ce qui me révèle qu'il y a autre chose que ça, si ce n'est la personne qui est passée à travers ces illusions, qui est la personne qui... parce qu'elle a été confrontée à une grave épreuve, ne peut plus se raconter que la réussite de la vie, c'est la performance. Et cette personne-là, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est qu'elle est prophétique parce que l'épreuve qu'elle porte fait qu'elle ne peut plus fonctionner en autonomie. Vous voyez, aujourd'hui, on nous fait beaucoup d'émissions de télé, de radio, de machin, tout, en nous disant oh, « Regardez le héros, il a traversé l'océan seul ». Simon de Cyrène, qui s'inscrit dans la cour de toutes ces grandes expériences spirituelles, hein, des Saint Vincent de Paul, évidemment des Jean Vanier, des Mères Teresa, ils nous disent la plus belle des traversées, c'est la traversée en totale dépendance. Plus je suis dépendant de l'autre, plus je suis capable de dire à l'autre j'ai besoin de toi, et plus étant dépendant, je suis capable de révéler à l'autre qu'il est capable, encore une fois, d'aimer et de se laisser aimer. Et du coup, pour ça, on ne choisit pas le handicap. C'est une vacherie, le handicap. C'est difficile de se réveiller avec. De même qu'on ne choisit pas de vieillir, c'est notre destinée humaine. Mais dans ces moments-là, on est peut-être plus capable de dire à l'autre « j'ai besoin de toi » et ce faisant, de proposer le cœur d'une société fraternelle. Vous voyez, si jamais on est notre devise citoyenne, hein, ça c'est pour tout homme, alors, c'est pas que pour les chrétiens.
J'allais venir, c'est quand vous en faites aussi une lecture sociale et presque politique. Est-ce vous pouvez finir là-dessus pour vous vous fait, avez cette expression, la fragilité comme ciment de la fraternité.
Mais oui, parce que
et
fait,
vous pensez à la devise républicaine.
En fait, vous savez, quand on parle de fraternité, hein, le frater, c'est le lien à l'autre. Eh bien, si jamais on est dans une fraternité où l'autre est un concurrent et qu'il faut aller plus vite que lui, on est fratricide. Hein ? Il y a quelque chose d'une violence et d'une destruction. Si la fraternité, c'est l'autre est un allié, l'autre a besoin de moi et j'ai besoin de l'autre, alors on crée une vraie fraternité d'alliance. Et on fait une expérience profonde qui se vit dans nos groupes de compagnons, qui se vit dans nos maisons, que ça me fait du bien. Voyez, et on n'est pas dans une charité où on se baisse vers l'autre, le pauvre gars. On est dans une charité où, je veux dire, c'est aimer son prochain comme soi-même. On se rend compte que ça me fait du bien d'aimer et de me laisser aimer. Et cette expérience-là, elle est révolutionnaire. Parce qu'on a un truc qui, du coup, qui fait envie, qui donne du goût. Moi, je suis frappé depuis qu'on a ouvert des maisons Simone Sirène. Les politiques viennent beaucoup nous voir. On a été invité du temps de Sarkozy à l'Élysée. On a été invité du temps de François Hollande à l'Élysée. On nous a remis un grand prix. La France s'engage. On a été invité, vous l'évoquiez, on a invité Édouard Philippe qui est venu passer 2 heures dans nos maisons. On a eu tout ce rayonnement médiatique à travers Philippe Pozzo di Borgo, notre président d'honneur, parce qu'on est devenu les maisons des intouchables. Mais tout ça,
intouchables, donc le film. Hein,
voilà. Mais tout ça, pourquoi ? Mais parce que les personnes les plus fragiles, à Simone Sirène et ailleurs, hein, à Arche et autres, eh bien, elles viennent apaiser notre société. Elles viennent dire à notre société, mais regarde ce qui vraiment a de la valeur et du goût. Et si jamais on s'ancre dans cette relation humaine, où l'autre n'est pas un concurrent mais en alliance, où l'autre a besoin de moi, j'ai besoin de lui, alors la parabole des talents, alors mes compétences, mes talents deviennent réellement féconds. Voyez ?
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu la... enfin, vous et vous citez l'Arche, et puis on pourra en citer d'autres, un peu la voix qui crie dans le désert aujourd'hui dans notre société, ou est-ce que vous avez l'impression, regardez toutes les personnes que vous rencontrez, dans les pouvoirs publics et autres, que serait venu le temps de l'intuition, de la place prophétique, de la fragilité?
Je vais vous prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que l'intuition, elle est certaine. Hein, quand 50 millions de personnes vont voir le film Intouchable, pourquoi ? Parce que le film Intouchable, il dit ça. C'est une allégorie qui est bien faite, mais ça nous dit, regarde deux personnes pétées par la vie sur le plan social, sur le plan physique.
50 millions ?
50 millions dans le monde. Incroyable quand même. Deux personnes complètement cassées par la vie, qui sont capables de devenir frères, de rigoler, de s'entraider. Mais ça donne 50 millions de personnes qui applaudissent au cinéma. C'est pas rien, vous voyez ? Maintenant, voix qui crie dans le désert, toujours un peu, parce qu'il faut dépasser cette peur, vous voyez ? Et ça m'amène à réinviter les auditeurs en disant, moi je vous invite à dépasser cette peur, et dans un lieu qui en plus est un lieu qui est enraciné, vous avez la chance d'avoir ça en région toulousaine, à Pibrac, hein, le 1er juillet, prochaine rencontre des compagnons, la messe à 11h, hein, avec cette Sainte Germaine qui était vraiment la patronne des pauvres, la prophète de cette pauvreté, de la délaissée, et qui, unie à Dieu, montre que l'amour est plus grand, même que la bassesse humaine, hein, et même que les conditions les plus misérables. Eh bien, à 11h, messe, hein, au prieuré de Pibrac, et à 12h, barbecue, avec la quarantaine d'amis, de compagnons handicapés, valides, etc. Et un moment où je vous invite à venir vraiment expérimenter la joie. Et puis, si ça vous touche, si vous voulez en savoir plus, vous venez sur le site simondesirene.org, tout attaché, simondesirene.org, ou alors vous pouvez appeler la fondatrice du groupe à Toulouse, parce qu'on a besoin de bénévoles de compétences. Hein, construire des maisons, donc on a besoin de gens qui soient capables d'aider 2 heures par mois, 2 heures par semaine. Et c'est Armelle Pagès qui fonde les maisons Simone Sirène à Toulouse au 06 11 90 05 08. 06 11 90 05 08. Et sinon, bah voilà, venez les retrouver le 1er juillet à Pibrac.
Autant d'informations que vous pouvez retrouver sur le site internet. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que vous cherchez pour qu'une maison s'ouvre à Toulouse ? Peut-être qu'il y a des gens généreux parmi nous qui peuvent vous aider à ce qu'un rêve devienne réalité.
Alors on cherche des gens qui viennent s'engager dans ce groupe de compagnons. C'est une rencontre amicale par mois. Hein. On y vient seul, on y vient en couple, on y vient en famille avec ses enfants. Et il y a une joie incroyable dans ce groupe de compagnons. Ça, c'est le socle. La communauté, elle est déjà là à Toulouse. C'est une communauté hors les murs. Après ça, on a besoin de gens qui ont des compétences par leur métier, par leur formation, experts comptables, architectes, gestionnaires, communication, commerciales, etc. Parce que quand on construit des maisons, eh bien, en fait, il faut trouver des donateurs. Alors, évidemment, n'hésitez pas, si jamais vous le pouvez, à faire un don à Simon de Sirène, hein, à adhérer à l'association Simon de Sirène. Et puis, on cherche des bénévoles, et puis on cherche des gens qui vont nous aider à préparer la construction de ces maisons et puis demain à bien les gérer. Donc,
et vous cherchez un lieu déjà ou...
Alors on est en recherche d'un lieu, hein, sur Toulouse ou sur la région toulousienne.
À quoi ressemble notre lieu rêvé en...
Et notre lieu rêvé, c'est un lieu qui est proche d'un centre-ville, hein, peut-être un centre-ville en Toulouse ou dans une commune autour. Et puis c'est un lieu dans lequel on va pouvoir construire ou réhabiliter ces maisons de 500 mètres carrés où vivent ensemble ces personnes handicapées et valides.
Merci beaucoup Laurent Cherizet d'être venu au micro de Radio Présence. Je rappelle donc le prochain rendez-vous 1er juillet des Compagnons Simon de Sirène, 11h messe à Pibrac, suivi d'un barbecue, et là on pourra tout vous réexpliquer. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.